plantée près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants mène à la ruine. Jusqu'ici, la parole du Seigneur, je vais vous en donner une interprétation. Le psaume 1. Le psaume 1, on ne connaît pas l'auteur de ce psaume. Très souvent, dans les psaumes, on a le psaume de David. David a écrit plus de la moitié des psaumes. Là, on ne connaît pas l'auteur. Ce psaume nous présente deux types de personnes, deux voies, deux destinées. Comme je vous l'ai dit, c'est de la poésie moyen-orientale. Alors, dans la poésie occidentale, on joue sur les rimes. Dans la poésie moyen-orientale, on joue sur les contrastes, sur les oppositions. Ce psaume nous rappelle qu'il n'existe que deux chemins possibles et qu'il n'y a pas de troisième voie. Et Dieu nous laisse libres. On est toujours libre de suivre la bonne voie qu'il nous montre ou de continuer dans notre mauvaise voie. Ce livre, il commence par une béatitude, heureux, et par une mise en garde aussi. Ce genre a été repris par Jésus dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7, heureux. Matthieu 5, verset 3. Le mot heureux est la traduction de ashraï en hébreu. C'est comme ça qu'on prononce, je ne suis pas très doué pour les langues étrangères, hein, donc ashraï en hébreu, hein, c'est le mot. Et le A, c'est la première lettre de l'alphabet, pour bien montrer que c'est la base. Et l'homme heureux, dans le texte qui nous est dit, il n'est pas défini par ce qu'il possède, mais il est défini par ce qu'il ne fait pas. Il ne fait pas trois choses et il ne fréquente pas trois genres de personnes. Je vous ai dit qu'il y avait un parallèle entre le livre des psaumes et le livre du Pentateuque. Au début de la Genèse, Dieu a commencé par trois fois à séparer aussi. Dieu a séparé la lumière des ténèbres, puis il a séparé les eaux en bas pour permettre à la terre d'apparaître, et enfin il a séparé les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Nous lisons ça dans Genèse 1, les chapitres 4 à 7. Et il fallait qu'il y ait cette séparation pour que la vie puisse commencer sur la terre. De même, il faut qu'il y ait cette séparation pour que nous ayons cette vie avec Dieu. Alors la première chose que ne fait pas l'homme qui est heureux, il ne marche pas selon le conseil des méchants. Littéralement, on pourrait dire, il ne chausse pas les chaussures des méchants. C'est quelqu'un qui se préserve. C'est quelqu'un qui est conscient de la réalité et du mal. Il se méfie du bourrage de crâne qu'on lui fait subir, auquel il est confronté, hein, par la publicité et par les médias. Il garde son discernement. Il ne se laisse pas entraîner. Il ne se laisse pas entraîner. C'est facile de se laisser entraîner. Or, moi, je suis un passionné d'histoire, et particulièrement l'histoire du XXe siècle. Et en regardant un reportage sur les jeunesses hitlériennes, qui paraissait ou sur MC Découverte ou sur la chaîne Histoire, je ne me souviens plus, il y avait un jeune qui racontait, donc la participation aux jeunesses hitlériennes était pratiquement obligatoire. Hein. Et lui, n'était pas dans les jeunesses hitlériennes. Et un jour, ils ont défilé devant chez lui, tous en uniforme et au pas, et ils sont montés le chercher pour qu'il vienne défiler. Donc, ils l'ont mis derrière. Alors, les autres étaient en uniforme, mais lui, il était en civil, et il a marché avec eux. Et en témoignant, cet homme disait, sans m'en rendre compte, j'ai marché au pas avec eux. Sans m'en rendre compte, j'ai marché au pas avec eux. Et c'est la crainte, quand on marche avec des méchants, c'est qu'on marche au pas avec eux, qu'on suit. Le mot méchant qui est écrit ici peut être aussi traduit par criminel. Criminel, c'est quelqu'un qui, à cause de ses actes, est passible de sanctions pénales. C'est celui qui ne laisse pas de place à Dieu, qui ne l'aime pas, qui enfreint ses lois. Alors plutôt que de marcher avec les méchants, sur la voie des méchants, Paul, en Éphésiens 6, 15, nous invite à avoir plutôt comme chaussure la disponibilité à servir l'évangile de paix. Il s'oppose à la séparation avec la marche des méchants. Parce que la méchanceté, elle fait partie intégrante de notre vie, de notre personnalité. Hein. Lorsque nous voulons changer par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. C'est le combat de toute notre vie, notre séparation. Et Paul l'a très bien défini en Romains 7, 15 à 25. Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. C'est un combat de toute notre vie. La deuxième chose que ne fait pas l'homme heureux, il ne se tient pas, il ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Là, il n'est plus en mouvement. La première fois, il marchait, il n'est plus en mouvement, il fait une pause, il reste. C'est intentionnel. Il est au mauvais endroit avec les mauvaises personnes. Parce qu'avec qui il s'arrête? Avec des pécheurs. Le pécheur, c'est quelqu'un qui rejette Dieu et qui enfreint délibérément, la loi de Dieu. Et la troisième chose qu'il ne fait pas, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. S'asseoir, c'est franchir encore une étape supplémentaire. C'est s'installer. C'est participer. C'est intentionnel. Mais c'est un engrenage qui est logique. Hein? Le péché entraîne vers le péché. Le moqueur, pour définir, c'est celui qui nie le péché. C'est celui qui renverse les valeurs. C'est celui qui se moque de la loi de Dieu. Proverbe 21-24 nous donne une définition du moqueur. Le moqueur, c'est un homme arrogant et hautain et qui agit poussé par un orgueil démesuré. Ésaïe 5, verset 20, dit « Malheur à ceux qui appellent mal le mal bien et bien le mal. » Le moqueur, c'est celui qui renverse la loi de Dieu. Il y a un endroit, hélas, où nous asseyons facilement en compagnie des moqueurs. C'est le canapé de notre salon devant la télévision. Lorsque nous sommes face à certaines émissions, il y a de très belles émissions. Je vous dis que moi je regarde des émissions sur l'histoire, hein, je ne suis pas con. Hier soir on a regardé Échappée Belle avec mon frère, donc voilà, il y a de très bonnes émissions qui sont très intéressantes. Il y a beaucoup d'émissions qu'il faut éviter. Le cercle vicieux continue donc, entraîne vers le bas. On adopte la manière de penser des méchants, les conseils, on imite leur comportement et finalement on s'installe dans leur groupe. Alors l'homme heureux, eh bien, il se sépare de ces trois groupes de personnes. Il évite les trois attitudes que je viens de dire. Mais alors qu'est-ce qu'il fait s'il n'est pas devant sa télé? Vous se posez la question, s'il n'est pas devant sa télé, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien le verset 2 nous le dit, « Toute sa joie, il le met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. » Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Paul a écrit dans sa deuxième lettre à Timothée, « Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. » C'est à cela que Dieu nous appelle, accomplir des bonnes œuvres. De Timothée 3, les versets 16 et 17. L'homme qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, il y trouve comment vivre. Cette loi devient sa loi. Il l'intègre dans sa vie. Il ne la médite pas seulement le dimanche, de 10h à midi ou un soir par semaine. Les jours et nuits, nous dit le texte, il la médite. Il l'approfondit. Elle occupe son esprit. Elle occupe son esprit dès qu'il a un moment de libre. Même quand il a arrêté un feu rouge, il y pense. Il rumine ce qu'il a lu. C'est ça, méditer la parole de Dieu. À noter que ce n'est pas le moment de culte qui fait sa joie. Ce n'est pas la communion fraternelle, bien sûr que ça fait la joie. Ce n'est pas les actions qui font avancer le royaume de Dieu qui font la joie de cet homme, mais c'est cette intimité qu'il entretient avec Dieu. C'est ça qui doit faire notre joie, cette intimité que l'on entretient avec Dieu. Et ça nous amène au verset suivant, au verset 3, où cet homme est comparé à un arbre planté près d'un cours d'eau ou d'un canal d'irrigation, hein, selon les versions. Ce sont ses racines qui vont chercher l'eau. C'est intérieur. Il n'attend pas qu'on lui apporte cette eau. Il ne dépend pas des circonstances. Au contraire, c'est dans les moments difficiles qu'il trouve dans la parole de Dieu les mots qui vont lui faire du bien. Ses racines profondes lui permettent de tenir en temps de sécheresse ou de vent violent. On trouve dans la parole de Dieu, c'est ce que disait Tahar tout à l'heure, des fois on se pose des questions. Et moi je peux vous dire que j'ai trouvé dans la parole de Dieu des réconforts très souvent dans ma vie. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie plate. Le jour où on se convertit, il n'y a plus d'obstacles. C'est une vie où il y a une turbulence. toute notre vie, il y aura des turbulences. J'ai passé par plein de turbulences au cours des 40 ans. Et je passe par des turbulences encore aujourd'hui. Et je tiens ferme parce que j'ai des racines et que je m'appuie sur la parole de Dieu. Est-ce que tu veux m'envoyer la première photo, la première diapositive? Voilà. Hop. Mettre droite, faire un quart de tour. S'il te plaît, parce que là, voilà. Voilà. C'est un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est un noyer. Ce noyer, je l'ai photographié dans la Somme. Donc, parce que j'étais allé en vacances voir les sites de la Première Guerre mondiale. Toujours passionné d'histoire. Donc la région s'appelle Capi. Et juste à côté, à une cinquantaine de mètres, il y avait un canal. Et vous voyez, cet arbre, il est magnifique. Alors le jardin du gîte que nous avons loué n'était pas assez grand. Donc je n'ai même pas pu prendre l'immensité de l'arbre. Mais c'est un arbre qui est vert, qui est costaud, qui a résisté. Et je voudrais que tu peux envoyer la diapositive suivante, Pierre, s'il te plaît. Voilà. Là, ce sont toujours des noyers. Alors je les ai pris, pas loin d'ici, je les ai pris à Vinay. De l'autre côté du département, à Noyer, si on veut trouver Noyer, on va dans cette région-là. C'est après une tempête. Et là, ce sont des arbres qui sont déracinés. Et vous savez pourquoi ils sont déracinés? Parce qu'ils n'ont pas de racines profondes. Ces arbres, ils sont irrigués. On ne voit pas là, mais souvent, il y a plein de tuyaux. Donc, ils ne vont pas chercher eux-mêmes l'eau, on leur apporte. Et ces arbres déracinés, ils me font penser à ce que j'ai souvent rencontré dans les 40 ans de ma vie chrétienne. C'est-à-dire des chrétiens qui ne sont pas affermis, qui ne vont pas chercher dans la parole de Dieu, mais qui attendent qu'on leur apporte quelque chose. Voilà. Alors, ils vont à droite, à gauche, ils vont chercher un petit truc là, un petit truc là. Ils ne sont pas ancrés dans une église. Ils ne sont pas ancrés non plus dans la parole de Dieu. Et puis, quand il y a quelque chose dans leur vie qui ne va plus, ben voilà ce qui arrive, ils sont déracinés. Ils sont entraînés à tout vent de doctrine, et ces vents de doctrine les déracinent. Et ces arbres-là, ce sont des arbres qui vont mourir, ce sont des arbres qui ne porteront pas de fruits. Donc c'est pour ça que c'est très important de connaître la parole de Dieu. C'est très important d'y puiser, parce que c'est dans la parole de Dieu, dans cette intimité avec Dieu, qu'on est assez costaud pour résister à toutes les tempêtes qu'on rencontrera forcément dans notre vie. Cet arbre donne son fruit en son temps, il ne flétrit jamais. Le prophète Jérémie aussi, au chapitre 17, et versets 7 et 8, utilise la même métaphore pour parler de l'homme qui se confie en l'Éternel. Je disais que l'image de l'arbre qui porte du fruit ne flétrit jamais, on le retrouve dans Jérémie au chapitre 17, les versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Et là, je suis interpellé aussi, moi, personnellement. Est-ce que moi aussi, je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel? Ou bien est-ce que je lis ma Bible par obligation, par habitude, sans chercher à connaître davantage Dieu? Et est-ce que je ressens un manque le jour où je n'ouvre pas ma Bible? Qu'est-ce qui m'empêche de méditer la parole de Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche de méditer la parole de Dieu? Alors, puisqu'on était dans les trois, j'ai trouvé trois excuses que l'on peut avoir. La première, c'est peut-être le manque d'amour. J'ai perdu ce premier amour que j'avais. Je dirais, après 40 ans, ça serait peut-être un peu normal. Non, c'est pas normal. On doit garder ce premier amour. C'est le reproche que l'ange de l'Éternel fait à l'église d'Éphèse, en Apocalypse 2.4, malgré la fidélité et la persévérance de cette église, il dit: ce que je te reproche, c'est que tu n'as plus ce premier amour. On peut lire, si vous voulez, dans Apocalypse 2, verset 5. Verset 3, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, tu ne t'es pas lassé. Cependant, j'ai un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. C'est une des raisons peut-être pour laquelle je ne prends pas le temps de méditer la parole de Dieu. Alors, Ralph Chalis, il avait une image très belle qui parlait beaucoup pour expliquer ce que c'est le premier amour. En comparant ça au couple, d'un jeune couple, il vient de se marier, le premier amour. Le mari, il arrive du boulot, 6h10, 6h15, il s'est dépêché de rentrer. La journée ne s'est pas bien passée, il démarre sa carrière, il a eu un peu des embrouilles avec son chef, il a commis des petites erreurs, mais qu'importe, il est tellement heureux de retrouver sa femme qui l'attend, qui a un petit peu raté sa cuisine, elle démarrait juste, jusqu'à maintenant c'est maman qui faisait la cuisine, donc, mais qu'importe, ils ont la joie de se retrouver. Ils rient l'un l'autre des erreurs qu'ils ont commises et finissent dans une grande étreinte, vous êtes d'accord? Et puis le même couple 20 ans après. Déjà, il n'arrive plus à 6h15. Parce qu'il s'est arrêté boire une bière avec ses copains. Et puis il rentre, c'est 7h30, 8h. Alors quand il arrive, sa femme, elle n'est plus là en train de cuisiner parce qu'elle a acheté le Magimix. Donc ça lui fait de la bonne cuisine. Mais elle a tout préparé. Alors quand il arrive, ben, elle est assise sur le canapé en train de regarder une série sur Netflix. Ou en train de regarder, lire le dernier roman de Marc Lévy. Ah, elle se retourne. Ah, tu es là. Il y a des trucs au frigo, tu les fais réchauffer au micro-ondes. Voilà. C'est un peu ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, si on a perdu ce premier amour, si on n'a plus cette envie de venir là, la parole de Dieu, venir la méditer. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de méditer la parole de Dieu? Le temps. Qu'est-ce que le Seigneur me demande de modifier dans mon agenda, que supprimer pour avoir du temps à passer avec lui? Est-ce qu'il faut que je me limite peut-être dans mon travail? Je passe un peu moins de sport? Que je raccourcisse les réunions? Je passe moins de temps sur Facebook, sur Netflix, que j'arrête peut-être de regarder des séries comme Game of Thrones, etc. Parce qu'on a toujours le temps pour ce que l'on aime. On a toujours le temps pour ceux qu'on aime. C'est à nous de faire des choix. Et là aussi, il y a une séparation à faire. Il y a quelque chose à laisser. Troisième chose qui peut m'empêcher, la Bible, c'est compliqué. Et une bonne Bible, c'est cher. Ouais. Et pour le prix de 5 paquets de cigarettes, même moins maintenant, 4 paquets de cigarettes, qui est la consommation hebdomadaire d'un fumeur, on peut s'acheter une bonne Bible avec commentaires qu'on va garder pendant des années. On a toujours l'argent pour s'acheter ce que l'on veut. Un fumeur, il a l'argent pour s'acheter ses cigarettes. Quelqu'un qui boit a l'argent pour s'acheter ses bouteilles d'alcool. Un chrétien qui aime le Seigneur, il a l'argent pour s'acheter sa Bible. Et si la période de vacances était pour nous l'occasion de méditer davantage la parole de Dieu? On a davantage de temps. Je continue ma lecture. Au verset 4, nous revenons aux méchants. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Vous savez ce que c'est que de la paille? Oui? Oui, si, encore, c'est agricole, hein? La paille, c'est la partie morte, entre les racines et les épis. C'est quelque chose qui n'a pas de vie, la paille. Pas de racines, pas de grains. Dans certaines régions, on brûle cette paille. Mais en majeure partie, on la ramasse. On ramasse, et elle sert surtout de litière pour les animaux. Alors, je vais bien envoyer la troisième photo. Voilà. Pareil, on se dit un petit quart de tour. Merci. Voilà. Elle sert de litière pour les animaux. Donc cette paille, elle absorbe les excréments. On la met en tas, ce que j'ai, hein, au départ c'était de la paille, pour la laisser bien se décomposer, puis enfin on la répand sur le sol avant de l'enterrer. Hein. Voilà à quoi sont comparés les méchants. Quelque chose qui absorbe les impuretés, et puis qui un jour seront enterrés, vont disparaître. En continuant notre lecture au verset 5, le verset 5 est introduit par un mot qui est aussi, qui montre qu'il y a une liaison avec avec le précédent, hein, et pour bien montrer quelle est la conséquence de cette vie sans Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Ils devront subir le jugement de Dieu et ils seront condamnés. Ils seront condamnés contrairement aux justes, qui ne subiront pas le jugement de Dieu, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, leur péché a déjà été payé à la croix. La communauté des justes s'oppose à la compagnie des moqueurs. L'Église s'oppose à l'esprit du monde. Mais ce texte nous met en garde aussi, parce qu'il est dit que nul pécheur ne subsistera dans la communauté des justes. Il y a dans la communauté des justes des personnes qui ne le sont pas et qui seront démasquées au moment du jugement. Ils ne peuvent pas subsister. Ils ne peuvent pas subsister en présence des justes. Ce C'est ce que nous rappelle la parabole des invités en Matthieu 22, les chapitres 11 à 14. Le roi entra pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé, comme il convient pour un mariage ?» L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit à ses serviteurs, « Prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et d'amers regrets. » Il peut y avoir dans l'assemblée des justes, hélas, des pécheurs qui ont pu passer inaperçus à un moment. Mais un jour, le masque tombera. Il y a donc un tri qui s'opère. Nous n'irons pas tous au paradis, clairement à ce que certains ont proclamé. Le verset 6, en continuant notre lecture, nous parle de l'Éternel. Et l'Éternel apparaît, comme pour nous rappeler qu'à la fin de tout, nous aurons à lui rendre des comptes. Nous aurons à lui rendre des comptes sur les chemins que nous aurons empruntés, ces chemins du départ. Soit la voie royale, qui conduit à sa demeure, soit les sentiers tortueux, soit les sentiers bien cachés, entourés de haies, auxquels nous espérons, dans, sur lesquels on pensait pouvoir passer inaperçu. Voilà ce psaume 1 nous permet d'entrer pleinement dans le livre. Hein. Il nous dit que seul celui qui garde l'alliance peut entrer et demeurer dans la présence de Dieu. Ceux qui prennent plaisir à la loi de Dieu peuvent entrer dans l'assemblée des justes, cette assemblée des justes qui chante les psaumes, les hymnes et les cantiques. Alors en conclusion, je vais revenir à ma question. Christophe Mahé, il est où le bonheur? C'est une question à laquelle aucun confort matériel et aucune philosophie humaine ne peut répondre. Je voudrais citer en conclusion aussi les paroles de Moïse en Deutéronome 30, les versets 15 et 16, où il dit « Voici, je place devant vous d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il trace et d'obéir à ses commandements et à ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie. » J'ai mis la vie avec un grand V. « Vous deviendrez nombreux. Vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. » Parce que ce bonheur auquel Dieu nous invite, il n'est pas seulement pour cette vie. Il se prolongera dans l'éternité. Ce bonheur, il dépend de mes dispositions de cœur, de mes choix. Ce bonheur, il est dans la parole, que l'on médite jour et nuit. Et ce bonheur, il est en Christ, qui est la parole de Dieu. Amen. Je vous invite. Un petit moment de silence. Merci encore Seigneur pour ta parole qui est vivante et qui travaille nos cœurs aujourd'hui. Merci pour ce psaume Seigneur, parce que c'est toi qui nous montres la voie. Merci parce que tu nous laisses libres, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de plus grande joie que d'être dans ta présence.